Et je vous propose de profiter maintenant de cet amphi rénové avec une toute première conférence. C'est une conférence semi-grand public. Le défi, c'est Hakim Atek, astronome de renom à l'IAP, qui a gentiment accepté de relever ce grand défi et d'ouvrir le bal. Donc, Hakim, si tu veux venir. Donc, Hakim est un spécialiste reconnu de la formation et de l'évolution des galaxies, surtout des galaxies de faible masse et de leur rôle dans la réionisation de l'univers. Il a un nombre impressionnant de papiers dans Nature. Il est très impliqué dans JWST et dans Euclid. Et sinon, pour la petite histoire, on a fait notre thèse ensemble à l'IAP, ce qui ne rajeunit personne. C'était il y a 3 ans. Ensuite, il est parti en postdoc à Caltech. On s'est croisés aussi. C'est une longue histoire entre Hakim et moi. Et puis ensuite, un postdoc à Genève, à l'EPFL. Et il était ensuite associate research scientist à Yale, avant de prendre un poste d'astronome adjoint à l'IAP. Et on est vraiment très contents que tu sois là avec nous. Et puis on te remercie beaucoup de nous parler de galaxies lointaines avec JWST Euclid, le potron miné cosmique. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Merci Koumilko pour l'introduction. Et évidemment, je suis très content d'être dans cet amphi tout beau, tout neuf, où il se passe beaucoup, beaucoup de choses, hein. Pas seulement des colloques scientifiques, mais aussi la diffusion des connaissances. Donc c'est un lieu très important pour l'IAP. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du potron miné cosmique, donc les premières lueurs dans l'univers, et comment le James Webb Space Telescope, donc le télescope spatial James Webb, nous aide à comprendre un petit peu la formation de ces premières sources de lumière dans l'univers, c'est-à-dire les premières étoiles et les premières galaxies. Donc avant de parler des premières étoiles, des premières galaxies, je vais commencer vraiment par le début, c'est-à-dire les fluctuations primordiales qu'on voit ici observées par le satellite Planck. Donc c'est vraiment ces petites fluctuations de température qu'on voit ici qui vont ensuite grossir, s'amplifier pour donner naissance aux grandes structures qu'on voit dans l'univers des milliards d'années plus tard. Donc ici on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations, de différences, mais en fait, en réalité, l'univers à ses débuts était extrêmement homogène. Donc on ne se rend pas compte, mais ici, les petites différences ici, c'est de l'ordre de 1 sur 100 000. Donc au début de l'univers, on avait une matière distribuée de façon très homogène, et ensuite, cette distribution homogène va donner naissance à un univers extrêmement complexe et structuré, donc on va passer à un univers extrêmement contrasté. Donc ces petites fluctuations vont grossir pour donner ces structures à grande échelle, ces filaments, ces grosses galaxies massives, ces amas de galaxies, etc. Donc le contraste, maintenant quelques milliards d'années plus tard, va passer à 100 000. De 100 millième à 100 000, il y a un facteur à peu près 10 milliards de contraste de changement. Donc pour passer d'un univers homogène à un univers complètement contrasté, il faut amasser de la matière très très vite pour former ces étoiles et ces galaxies. Donc on essaie de reproduire ça très souvent dans les simulations numériques, dans nos théories de formation des galaxies. Et si on essaie de mettre simplement de la matière ordinaire, la matière qu'on connaît, eh ben on n'y arrive pas du tout. Donc ce qu'on fait en fait pour arriver à former ces structures très rapidement, aussi rapidement, c'est de rajouter de la matière inconnue, 10 fois plus de matière que de matière normale, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Donc c'est vraiment un ingrédient fondamental de notre théorie du modèle cosmologique, c'est la matière noire. Il faut rajouter 10 fois plus de matière inconnue pour arriver à former ces structures aussi rapidement que l'on observe maintenant. Donc ça c'est l'univers à grande échelle. On arrive très bien à reproduire l'univers à grande échelle maintenant dans les simulations numériques en mettant simplement de la matière noire, en partant de ces conditions initiales que sont ces fluctuations primordiales, et on laisse faire la gravitation et on arrive à reproduire ces structures. Donc je vais vous montrer ces structures maintenant qu'on observe dans l'univers, donc à des structures très très larges. Donc ça, c'est dans les années 80 qu'on a vu pour la première fois la distribution de galaxies à grande échelle dans l'univers. Et c'est la première fois aussi qu'on a vu dans les années 80 que les galaxies n'étaient pas distribuées de façon aléatoire et homogène dans l'univers. En fait, elles formaient des filaments. Donc vous voyez ces grands murs ici dans l'univers. Vous voyez des grands vides aussi où il n'y a pas beaucoup de galaxies. Et à plus grande échelle, ça continue, hein, ces ramifications. Donc tout l'univers ressemble à ça. Et je vous ai parlé des simulations numériques. On met de la matière noire et de la gravitation pour reproduire ces structures à grande échelle. Et bien ça, c'est les simulations. Et vous voyez qu'on reproduit très très bien l'univers à grande échelle avec la matière noire ici, donc dans les simulations rouges. Donc ça, on voit des structures à peu près de 500 millions ou 500 000 années-lumière de taille, hein, pour ces murs. Et on peut aller encore plus loin, on peut aller un milliard d'années-lumière encore plus loin, et on voit toujours ces mêmes structures, ces mêmes filaments, ce qu'on appelle la toile cosmique dans l'univers. Et pareil, dans les simulations, on arrive très bien à reproduire l'univers à grande échelle qu'on voit ici en rouge. Sauf que ça, c'est l'univers à grande échelle. Il nous faut aussi reproduire la formation des galaxies, ce qui se passe dans les galaxies, la formation des étoiles et tous les processus compliqués dans les galaxies à petite échelle. Donc, toute cette physique est très compliquée parce qu'on doit essayer de reproduire l'univers à grande échelle, on doit essayer de reproduire l'univers à petite échelle dans les galaxies. Donc, c'est ça le problème majeur actuel des simulations. Si on veut reproduire tout ça, eh ben, ça coûte beaucoup, beaucoup de temps de calcul. On ne sait pas faire pour l'instant avec les ordinateurs actuels, avec la puissance de calcul actuelle. Donc, avec le calcul, le problème, le challenge qu'on a, c'est qu'on doit reproduire l'univers à grande échelle ici, qui est à peu près de l'ordre du milliard d'années-lumière. Et puis, les halos de matière noire qui se condensent, dont je parlais tout à l'heure, qui sont à peu près du million d'années-lumière. Et ensuite, on doit résoudre aussi la formation des petites galaxies dans ces structures beaucoup plus grandes. Et ensuite, dans les galaxies elles-mêmes, il faut descendre encore à petite échelle et essayer de reproduire la formation à partir du gaz d'hydrogène, hein, qui se condense pour former les étoiles à très petite échelle. Là, on parle de milliers d'années-lumière à peu près. Donc ça, c'est le milieu interstellaire dans les galaxies. On peut rentrer encore plus dans les détails. Donc la formation des étoiles à partir du gaz qui va se condenser, des nuages de gaz, ensuite qui va former ensuite ces étoiles, et ces étoiles vont avoir une sorte de rétroaction sur le gaz environnant, c'est-à-dire que les étoiles qui sont en train de se former vont chauffer le gaz aussi environnant, donc va arrêter aussi la formation des étoiles. Donc il y a cette compétition entre formation des étoiles et chauffage du gaz environnant. Donc il y a une efficacité de formation stellaire qu'il faut aussi reproduire dans ces galaxies. Et donc, comme je l'ai dit, c'est très compliqué de reproduire ça, les petites échelles et les grandes échelles en même temps. Donc dans les simulations, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va faire une grande simulation pour reproduire l'univers à grande échelle. On va stopper cette simulation, on va faire un zoom sur une région de cet univers qu'on vient de simuler. On va partir de ces conditions initiales et peut prendre une petite zone pour résoudre les phénomènes à petite échelle qui se passent dedans. Et une autre technique, c'est à l'inverse, c'est-à-dire prendre simplement l'univers à grande échelle et utiliser des relations qu'on a auparavant calibrées à petite échelle sans vraiment les résoudre à grande échelle. Et ces relations qu'on va utiliser, c'est des recettes un petit peu physiques, phénoménologiques, qu'on va calibrer avec les observations. Donc on a besoin de beaucoup d'observations pour calibrer toutes ces recettes qu'on va utiliser dans les simulations. Donc moi, dans mon travail avec des équipes internationales, ce qu'on essaye de faire, c'est de récolter des observations, les observations les plus pertinentes pour essayer de calibrer ces simulations cosmologiques pour essayer de mieux comprendre la formation des galaxies depuis les débuts de l'univers jusqu'à nos jours. Donc ici, je vous montre un petit peu un résumé de l'histoire de l'univers pour vous situer un petit peu les observations, à quelle période on essaie d'observer ces galaxies. Donc les fluctuations primordiales dont je vous parlais tout à l'heure, elles se passent ici, à peu près, donc c'est la première lumière de l'univers qu'on reçoit encore aujourd'hui. C'est le fond diffus cosmologique, à peu près 400 000 ans après le Big Bang. Et après ça, l'univers devient complètement neutre et opaque, rempli principalement d'hydrogène neutre. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les âges sombres, parce qu'il n'y a aucune source de lumière à part ce fond diffus cosmologique. Les premiers objets astrophysiques ne se sont pas encore formés dans l'univers. Et ensuite, quelques centaines de millions d'années après, on pense que les premières étoiles, les premières galaxies vont commencer à se former. Donc c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle ici le proton miné cosmique. Donc c'est les premières lueurs. On pense que ça s'est passé à peu près 100 millions, 200 millions d'années après le Big Bang. Donc là, c'est vraiment un domaine complètement théorique. Donc on a peu d'observations, même pas du tout d'observations dans cette époque-là de l'univers. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de repousser ces limites observationnelles jusqu'à observer ces premières sources de lumière qui se forment dans l'univers. Et ensuite, ces premières sources vont commencer à chauffer le gaz. Je vous ai dit que l'univers était complètement opaque et neutre, rempli de gaz d'hydrogène. Ces premières sources vont commencer à chauffer ce gaz d'hydrogène, à le dissiper en fait, jusqu'à ce que l'univers devienne complètement ionisé, c'est-à-dire complètement transparent, à peu près un milliard d'années après le Big Bang. Donc c'est ici à peu près que ça se passe, la réionisation. Et ensuite, on a les structures qui vont continuer à évoluer jusqu'à donner nos galaxies actuelles, les vieilles galaxies, à peu près 13,8 milliards d'années plus tard. Donc dans ces observations, dans cette course à l'observation pour repousser nos limites observationnelles, je voulais aussi faire un petit rappel historique pour voir vraiment l'évolution du domaine observationnel des galaxies lointaines. Donc il y a 100 ans à peu près maintenant, où on a enfin compris que notre galaxie n'était pas l'unique galaxie dans l'univers et qu'on avait en fait beaucoup, beaucoup de galaxies en dehors de notre galaxie. Ça, c'était les observations d'Edwin Hubble dans les années 1920. Donc ça, on voit la galaxie d'Andromède. C'est la plaque photographique de Hubble avec la galaxie d'Andromède, observée en 1923. Et ici, il observe des étoiles variables. Donc les étoiles variables, en fait, c'est Henrietta Leavitt qui a trouvé une solution pour mesurer la distance de ces étoiles et donc la distance des galaxies dans lesquelles se trouvent ces étoiles. Elle trouve que la variabilité de la lumière de ces étoiles est directement liée à leur distance. Donc si on mesure la variabilité de ces étoiles, on peut directement mesurer la distance de ces galaxies. Donc Hubble va utiliser cette méthode pour mesurer la distance à la galaxie d'Andromède et il trouve une distance beaucoup plus grande que la taille de notre galaxie, la Voie lactée. Donc c'est là qu'on commence à comprendre qu'il y a d'autres galaxies autres que la nôtre. Et par la même occasion, il trouve que les galaxies plus lointaines s'éloignent beaucoup plus vite encore de nous. Et donc là, par la même occasion, il découvre l'expansion de l'univers. Donc ça, c'était les résultats observationnels. Et parallèlement, Georges Lemaître trouve aussi le même résultat de façon théorique. Donc c'est pour ça que maintenant on appelle ça la loi de Hubble-Lemaître, de l'expansion de l'univers. Donc ça, c'était vraiment un travail de beaucoup de personnes, mais même au niveau observationnel, Hubble n'était pas tout seul à faire ça. En fait, 10 ans auparavant, il y avait un certain Vesto Slipher qui avait observé à l'observatoire Lowell, qui avait mesuré en fait la vitesse de certaines galaxies, des nébuleuses, comme on les appelait à l'époque, des nébuleuses, et il a trouvé des vitesses assez aberrantes pour l'époque, donc des grandes vitesses qui ne pouvaient pas appartenir à notre galaxie. Donc il pouvait déjà se douter qu'il y avait des galaxies en dehors de la nôtre, mais il ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. Il trouve que c'est un peu inconcevable, donc il ne publie pas ses résultats, il publie simplement les spectres. Donc c'est ces spectres-là, c'est ces mesures de vitesse que Hubble utilise d'ailleurs dans cette figure. La plupart de ces points ici de vitesse, c'est des vitesses mesurées par Vesto Slipher. Et d'autres points encore ici dans cette figure, c'est Humason, un autre encore collaborateur de Hubble, qui les a mesurés à l'observatoire du Mont Wilson. Alors lui, l'histoire est assez dingue d'Humason. C'était pas un observateur, c'était pas un astronome. En fait, c'était quelqu'un qui était chargé de ramener du matériel au Mont Wilson, à dos d'âne. Et ensuite, parfois, il reste avec les astronomes au Mont Wilson et il les aide parfois à faire des observations. Et donc c'est le directeur du Mont Wilson, de l'observatoire du Mont Wilson, qui remarque qu'il a un don inné vraiment pour l'observation. Il va le nommer astronome au Mont Wilson et ça devient l'un des meilleurs observateurs de sa génération au Mont Wilson. Il travaille avec Hubble et c'est lui qui fait les mesures qui vont mener à la découverte de l'expansion de l'univers. Voilà. Donc on oublie assez souvent ce travail d'autres collègues de Hubble. Je voulais aussi vous montrer, on va faire un bond ici, hein, depuis Hubble jusqu'au télescope spatial Hubble, qui porte son nom justement. Donc ici, c'est la plaque photographique observée par Hubble de la galaxie d'Andromède. Et maintenant, je vais vous montrer la même galaxie observée par le télescope Hubble. Donc voilà, j'espère que vous voyez quelques différences entre les deux. Et puis, cette étoile ici qu'on voit en haut, c'est l'étoile variable utilisée par Hubble pour déterminer la distance de la galaxie d'Andromède. Et on voit qu'en quelques semaines, on voit la variabilité de la luminosité de cette étoile, hein, qui devient plus brillante ici. Donc le télescope spatial Hubble était vraiment révolutionnaire, hein, pour l'étude des galaxies lointaines. Donc avant Hubble, dans les années 80, donc je vous ai montré tout à l'heure la découverte de cette distribution à grande échelle des galaxies, mais ça restait quand même l'univers assez relativement proche. Et puis les objets, les sources les plus distantes qu'on connaissait à l'époque, c'était surtout des trous noirs supermassifs, donc très très brillants, donc qui étaient faciles de détecter. Mais à part ça, les galaxies, ben, on restait dans un univers plutôt proche jusqu'à l'arrivée du télescope spatial Hubble. Et là, je pense que c'était une découverte assez charnière, un programme d'observation qui était très important dans la vie du télescope spatial Hubble, mais aussi dans la vie de l'astronomie extragalactique, c'est que le directeur du télescope spatial Hubble décide, à un moment donné, en 1995, d'observer une petite portion du ciel, mais vraiment vide, de pointer le télescope Hubble sur une toute partie du ciel, vous voyez ici, qui est beaucoup plus petite que la taille de la Lune sur le ciel, et il décide de poser le télescope pendant des jours sur cette partie vide du ciel, en se disant, on finira bien par découvrir quelque chose. Eh bien, il avait raison, et là, c'était les observateurs, à l'époque, en 1996, qui reçoivent, à Noël, hein, vous l'aurez compris, 96, qui regardent les premières images. Donc, je n'ai même pas besoin de vous dire que c'est 96, vous aurez compris que c'est les années 90, hein, dans cette image, avec la taille des ordinateurs, les pulls que portent les gens, et certaines moustaches, évidemment. Et donc, la première image qu'on observe ici, c'est ça. Donc, c'était assez impressionnant. Dans cette petite région du ciel apparemment vide, on découvre à peu près 10 000 galaxies. 10 000 galaxies, mais surtout à des distances très différentes. On découvre des galaxies qui sont distantes de 10 milliards d'années-lumière. Et on découvre aussi que les galaxies, en fait, sont très diverses et variées. On a des morphologies complètement différentes. On a des couleurs complètement différentes, hein, du bleu, du rouge, etc. Et on découvre aussi, par la même occasion, donc, l'évolution hiérarchique des galaxies, c'est-à-dire qu'on commence par des galaxies très très jeunes, très petites, irrégulières, qui évoluent, qui deviennent de plus en plus massives, qui fusionnent entre elles et qui donnent des galaxies plus elliptiques, plus ordonnées et plus vieilles, donc plus rouges, beaucoup plus tard, des milliards d'années plus tard. Donc là, c'était vraiment la révolution pour l'astronomie extragalactique à l'époque. Donc ici, je vous montre un petit peu la distribution des galaxies découvertes par Hubble. Donc vous voyez ici, on va dire, la luminosité des galaxies, la brillance des galaxies, en fonction de leur distance. Donc on mesure souvent les distances des galaxies par le décalage spectral, ici ce qu'on appelle le redshift, et l'équivalent ici en millions d'années après le Big Bang. Donc ici à peu près, c'est 1 milliard d'années après le Big Bang, c'est ici 400 millions d'années après le Big Bang. Donc on découvre beaucoup, beaucoup de galaxies, des milliers de galaxies, hein, qui ont à peu près moins de 1 milliard d'années après le Big Bang, en fonction du redshift, en fonction des luminosités. On voit qu'en arrivant à peu près à 500 millions d'années après le Big Bang, on commence à avoir du mal, évidemment, à détecter des galaxies plus lointaines. Donc le record de la galaxie la plus distante découverte par Hubble, c'est à peu près à 450 millions d'années. OK ? Donc ça, c'était Hubble. Ensuite vient le James Webb. Donc j'avais cette photo du James Webb. Donc c'est le miroir principal du James Webb qui était au centre de la NASA avant le lancement. Donc Patrick vient de me donner ce modèle de James Webb. Je vais essayer de le faire tomber. Donc c'est une maquette de James Webb que je vais garder. Tu m'as dit que je pouvais la garder ? Non, non. OK. J'ai tenté. Donc l'avantage principal maintenant de James Webb par rapport à Hubble se résume dans cette figure-là, on peut le résumer ici, c'est déjà la taille du miroir du télescope James Webb par rapport à Hubble. Donc vous voyez la différence, ça veut dire un grand miroir, on peut collecter beaucoup, beaucoup plus de lumière, donc on peut détecter des galaxies de très très faible luminosité et donc très très distantes. Et ensuite, Hubble, il observait principalement dans le domaine visible de longueur d'onde. Donc ce qui se passe quand on essaie d'observer des galaxies très distantes, c'est que leur lumière, à cause de l'expansion de l'univers, va être décalée vers le rouge. Et donc des galaxies très très lointaines, leur lumière va être décalée vers l'infrarouge. Donc il nous faut un télescope qui observe dans l'infrarouge. Et donc vous voyez que James Webb va observer plus dans l'infrarouge que Hubble. Et on avait un télescope déjà à l'époque qui s'appelle Spitzer qui observait dans l'infrarouge, mais il était vraiment minuscule. Donc vous voyez la taille de Spitzer par rapport à James Webb. Donc là, on allie une grande sensibilité parce qu'on a un grand miroir. Et en plus, on observe dans l'infrarouge. Donc c'est parfait pour détecter des petites galaxies très distantes. Et donc là, je vous montre une image du télescope qui arrive en Guyane avant le lancement hein, sur ce bateau. Et pour comparer, voici le télescope du Mont Wilson qui est transporté au Mont Wilson. Donc c'est le télescope qu'a utilisé Hubble pour découvrir l'expansion de l'univers qui est transporté ici. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, donc Hubble nous a aidés évidemment à détecter beaucoup, beaucoup de galaxies à peu près un milliard d'années après le Big Bang, mais nous, on essaie de pousser toujours, toujours cette limite observationnelle, cet horizon observationnel, beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers. Donc James Webb va nous aider à pousser jusqu'à peut-être 200 millions d'années seulement après le Big Bang. Et donc là, je vous montre déjà, après 2-3 ans d'observation de James Webb, la distribution qu'on a vue tout à l'heure en luminosité des galaxies et de leur distance du redshift. Donc en bleu, c'est les galaxies confirmées par Hubble, et en rouge, c'est les galaxies observées par James Webb. Donc vous voyez qu'on découvre déjà des galaxies beaucoup plus faibles en luminosité, hein, les galaxies de faible luminosité sont en bas, donc beaucoup plus petites, mais on détecte aussi des galaxies beaucoup, beaucoup plus lointaines grâce à James Webb, grâce à cette observation dans l'infrarouge que je vous ai montrée. Donc là, on explore déjà un domaine complètement inconnu grâce à James Webb. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des surprises qu'on a eues avec James Webb. Donc à chaque fois qu'on construit évidemment un nouveau télescope, un nouvel instrument, on s'attend à voir ces surprises-là. Enfin, des surprises attendues, c'est un peu un oxymore, mais on savait qu'on allait avoir des surprises. Mais avant les surprises, si on trouve quelque chose d'inattendu, je vais vous dire ce qu'on attendait déjà avant en ce qui concerne les premières galaxies. Donc, d'après nos théories, d'après nos modèles, d'après ce qu'on connaissait sur les premières galaxies, on s'attendait à voir des galaxies très petites, donc très très faibles en luminosité, donc peu brillantes, irrégulières, donc qui n'ont pas encore construit ces disques, ces spirales, etc., donc très peu régulières, et qui n'ont pas eu le temps aussi de fabriquer au sein de leurs étoiles, au sein du milieu interstellaire, des éléments lourds. Donc on va avoir principalement de l'hydrogène, de l'hélium et peu d'oxygène et de carbone par exemple. Et évidemment, par définition, on va avoir des populations stellaires très très jeunes dans ces galaxies. Et ensuite, on a aussi une distribution en nombre donc, de ces galaxies qui est prédite par notre théorie à la fois de la matière noire mais de la formation de la matière ordinaire. Ça veut dire chaque simulation, en fait, chaque théorie de la formation des galaxies va vous prédire un nombre exact de galaxies massives et un nombre exact de galaxies de faible masse. Donc on sait plus ou moins combien de galaxies massives on va trouver à ces époques-là. Enfin, on pensait en tout cas le savoir. Et dès les premières années, évidemment, les surprises commencent. Donc plein de titres aussi tonitruants les uns que les autres. Donc le James Webb, par exemple, a cassé l'univers, carrément. Tout ça parce que les premières années, on a découvert des galaxies trop massives. Elles étaient trop évoluées, elles ont formé trop de masses stellaires trop vite par rapport à nos modèles. Donc évidemment, nos modèles étaient calibrés sur un univers plutôt relativement proche, on va dire. On n'a jamais été confronté à des observations des premières galaxies. Et on voit que nos modèles, effectivement, n'étaient pas prêts à voir ce genre d'observation parce que les conditions de formation des premières galaxies étaient certainement très différentes des galaxies qui vont arriver plus tard, qu'on observe plus tard. Donc, par exemple, on a observé beaucoup de galaxies qui étaient effectivement trop massives pour nos modèles. On pouvait, les modèles, en tout cas, ne prédisaient pas des galaxies aussi massives aussitôt. Donc, pour s'en sortir, il faut regarder l'efficacité de formation stellaire. Avec quelle efficacité les galaxies vont former leurs étoiles. Donc ici, je vous montre enfin, ce que prédit la théorie, en tout cas. Ici, c'est le taux de formation stellaire des galaxies, donc combien d'étoiles se forment par an dans ces galaxies. Et ça, ça dépend principalement de deux choses. Ça dépend de combien de gaz la matière noire, je vous ai dit tout à l'heure, on commence toujours par la matière noire, qui va ensuite attirer la matière ordinaire, donc le gaz, qui va ensuite être le carburant de la formation des étoiles dans les galaxies. Donc ce taux de formation d'étoiles va dépendre du taux d'accrétion, combien de gaz ces halos de matière noire vont accréter sur eux. Et ensuite, une fois qu'on a cette masse de gaz accrétée par les halos de matière noire, il s'agit aussi de mesurer l'efficacité de formation des étoiles. Et là, c'est vraiment la matière ordinaire. Combien de masse de gaz ordinaire d'hydrogène se transforme en étoile? Donc, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de formation stellaire. Donc ici, la petite figure ici, c'est assez simple en fait. C'est ce que prédit, c'est le nombre, c'est la distribution de halos de matière noire en fonction de la masse des halos de matière noire. Ça veut dire qu'ici, on va avoir, sur la courbe bleue par exemple, ici, on va avoir beaucoup de halos de faible masse et très peu de halos de très massifs ici. Et on voit l'évolution aussi avec le redshift, donc avec la distance. Donc en rouge, c'est vraiment l'univers primordial, et en bleu, c'est l'univers proche. Donc on voit que le nombre absolu de halos de matière noire évolue aussi. On voit peu de halos de matière noire ici, on voit beaucoup plus à l'heure actuelle. Donc on voit cette évolution, mais on voit surtout qu'il y a une distribution bien définie de ces halos de matière noire. On a beaucoup de halos de faible masse et peu de halos massifs. Et ensuite, la deuxième courbe que vous voyez ici, c'est l'efficacité ici dont je vous parlais, de formation d'étoiles. Et on voit que cette efficacité, elle n'est pas constante en fonction de la masse des halos de matière noire. Donc on va voir qu'il y a un maximum d'efficacité de formation d'étoiles en fonction de la masse des halos. Donc les petits halos ne vont pas transformer de façon efficace le gaz en étoile. Les halos très massifs non plus. Donc il y a un pic à peu près où il y a un maximum d'efficacité de transformation du gaz en étoile. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients, pour simplifier, de la théorie de formation des galaxies. Donc ça, c'est la théorie. Ensuite, on a eu les observations. Donc ça, pareil, c'est l'activité, on va dire, de formation d'étoiles de toutes les galaxies dans l'univers, encore une fois, en fonction du temps. Donc ici, à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang, ici, on se rapproche du Big Bang, ok ? Donc ça, c'est l'évolution de l'activité, de l'efficacité de formation stellaire en fonction du temps. Donc ça, c'est la masse totale d'étoiles qui est formée en fonction du temps pour une efficacité constante. Si on se dit que l'efficacité est constante en fonction du temps, bah vous allez avoir ça. Bah pourquoi ça diminue? Parce que je vous ai dit que le nombre de halos de matière noire diminuait aussi avec le temps. En fait, si on multiplie ça par une efficacité constante, on va avoir quelque chose qui diminue pareil, comme ça. Et maintenant, les observations de Hubble, que je vous ai montrées tout à l'heure, eh ben, ça marche très très bien. On matche très très bien, on reproduit les modèles de formation des galaxies jusqu'à à peu près un redshift de 10, c'est-à-dire 500 millions d'années après le Big Bang. Donc notre théorie marche très très bien jusqu'à ce moment-là. Et ensuite vient le James Webb, du coup. Et voilà ce qu'on observe. Et donc là, ça dévie complètement. On n'a plus un accord entre les observations et les modèles théoriques de formation des galaxies, c'est-à-dire qu'on forme trop d'étoiles, encore une fois, dans l'univers précoce par rapport à nos modèles, ici, d'efficacité constante. Donc on doit changer quelque chose, on doit trouver d'autres scénarios pour expliquer cette formation trop efficace des galaxies dans l'univers jeune. Ici, on peut le voir autrement aussi. Ça, c'est pareil, c'est le nombre de galaxies qu'on observe en fonction de leur masse. Et ici, c'est ce que prédit la théorie pour une efficacité de formation d'étoiles de 10%. Ici, ça veut dire en gris que vous transformez 10% de votre gaz en étoile. En orange, vous transformez 30% de votre gaz en étoile. Et en noir, ici, vous transformez 100% du gaz en étoile. Et là, on arrive vraiment aux limites de la physique de notre modèle cosmologique même, c'est-à-dire que si vous allez au-delà, en fait, vous formez plus d'étoiles que vous n'avez de matière dans l'univers. Donc, ce n'est pas possible. Donc là, on arrive vraiment aux limites. Donc, aucun modèle ne peut reproduire une efficacité aussi énorme de formation d'étoiles. Donc, encore une fois, il faut changer des choses dans nos modèles de formation des galaxies. Et donc, quand on essaye aussi de faire ça, donc on essaye, comme je l'ai dit, de pousser toujours un peu plus loin cet horizon en termes de distance, remonter aux premières galaxies, parce qu'on voit que plus on remonte, moins nos modèles de formation des galaxies marchent. Donc on essaie toujours de tester ce modèle, de voir les limites de ces modèles pour trouver ou améliorer nos théories de formation des galaxies. Donc ici, c'est un peu un panorama des galaxies les plus distantes découvertes par le télescope James Webb. Donc ici, vous voyez qu'on arrive à un redshift 14, c'est-à-dire qu'on se rapproche de 300 millions d'années après le Big Bang. Donc c'est les galaxies les plus distantes. Il y a quelques mois encore, on a battu ce record. On a trouvé une galaxie qui était encore plus loin, donc à peu près à 280 millions d'années après le Big Bang. Donc c'est cette galaxie-là. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand on regarde juste cette galaxie, la galaxie la plus lointaine jamais découverte, eh ben, on peut mesurer le nombre attendu, encore une fois, de galaxies à cette époque-là par les modèles. Ben, c'est cette courbe grise ici, c'est le nombre de galaxies attendues en fonction de leur luminosité. Et notre galaxie observée, elle est ici. Et il y a un facteur 100 de différence entre ces modèles-là et ce qu'on observe ici. Ça veut dire que pour détecter cette galaxie, il aurait fallu observer une partie du ciel 100 fois plus grande pour espérer détecter une telle galaxie. Et dans une toute petite partie du ciel, on découvre déjà une galaxie aussi massive, aussi brillante. Donc encore une fois, ça ne marche pas du tout avec nos modèles qu'on avait conçus avant les observations de James Webb. Mais rassurez-vous, il y a maintenant beaucoup de scénarios pour expliquer ces observations. C'est ce qu'on voit en orange, c'est la bande orange ici. On a beaucoup de scénarios pour reproduire ces observations. Et vous voyez que ça marche plutôt bien maintenant avec ces scénarios. Donc je vais revenir un petit peu dessus plus tard, les différents scénarios qu'on essaie d'améliorer pour expliquer cette formation des premières galaxies. Et par ailleurs aussi, un autre résultat assez surprenant, c'est que pour ces galaxies, on forme des éléments lourds beaucoup trop vite aussi. C'est-à-dire qu'on va former de l'azote, par exemple. L'azote, c'est un élément lourd qui prend beaucoup de temps à produire par les étoiles et qui va se retrouver dans le gaz des galaxies. Ça prend beaucoup de temps, sauf que là, en tout cas pour les galaxies locales, par exemple, voici ce qu'on observe, le rapport ici qu'on observe. Et pour les galaxies lointaines, voici ce qu'on observe. Donc c'est vraiment très très différent de ce qu'on observe dans l'univers local. Donc ce rapport d'azote, ça veut dire qu'on produit trop d'azote, trop vite, encore dans ces galaxies. Et ça, on n'arrive toujours pas à l'expliquer. Il y a encore beaucoup de modèles de formation stellaire qui essaient d'expliquer ça. Mais c'est sans doute la nature des étoiles même qu'on doit changer. En tout cas, la distribution, il doit y avoir beaucoup plus d'étoiles massives dans ces galaxies primordiales que dans les galaxies locales. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est encore une différence. Mais en tout cas, cette galaxie, vous voyez bien que maintenant qu'on se rapproche de plus en plus du Big Bang, ça veut dire que vous avez de moins en moins de temps pour former ces galaxies. Donc si vous n'avez que 100 millions d'années pour former une galaxie, ben, il y a beaucoup de scénarios de formation des galaxies qui vont être réfutés, parce que ces scénarios prennent peut-être 300 millions d'années pour former une galaxie. Donc si vous avez seulement 100 millions d'années, il n'y a que quelques modèles qui marchent encore. Et donc 100 millions d'années, c'est très très vite, hein, pour former une galaxie entière. Il a fallu moins de temps pour que la vie apparaisse sur Terre. Enfin, plus de temps, pardon, pour que la vie apparaisse sur Terre. Donc 100 millions d'années, on arrive encore à la limite de beaucoup de modèles de formation des galaxies. Donc ça, c'est les observations des premières années de James Webb. Et ce que je vous montre ici, je voulais aussi vous montrer la distribution des galaxies. La distribution de galaxies en fonction de leur luminosité, en fonction de leur masse. Donc ça, c'est le nombre de galaxies en fonction de leur magnitude. Donc ici, vous avez les galaxies de faible luminosité, les toutes petites galaxies. Et ici, vous avez les galaxies brillantes. Donc vous voyez qu'ici, vous voyez beaucoup, beaucoup plus de galaxies de faible luminosité que des galaxies massives, hein. C'est comme ça que la formation hiérarchique des galaxies marche. Mais jusque-là, en fait, ce qu'on voyait avec James Webb, c'était ça, c'était les galaxies brillantes. En fait, on voyait que 1% des galaxies dans l'univers primordial. Donc ce qu'on veut observer, c'est vraiment les 99% des galaxies restantes. C'est les galaxies les plus représentatives de ce qui se passe dans l'univers primordial. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc ça, c'est principalement en fait ce qu'on voyait, c'était vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et nous, on veut voir cette partie immergée pour avoir une compréhension totale, plus complète, de la formation des galaxies, des premières galaxies. Donc en fait, pour faire ça, il ne suffit pas d'avoir ce télescope James Webb. On va aussi combiner ce qu'on appelle des télescopes gravitationnels. Donc c'est des lentilles gravitationnelles, en fait c'est des amas de galaxies massives. Quand vous avez un amas de galaxies, une concentration énorme de masse, ça va déformer en fait l'espace-temps et ça va agir comme une loupe gravitationnelle, donc qui va amplifier en fait la lumière des galaxies d'arrière-plan distantes. Donc en fait, on va utiliser cette loupe combinée avec notre télescope James Webb pour amplifier encore plus la lumière de ces galaxies distantes et donc pour découvrir des galaxies encore plus petites que vous pouvez le faire avec le James Webb. Donc on voit ici un exemple, par exemple, un amas de galaxies ici. Donc ça, c'est une galaxie d'arrière-plan en fait qui est déformée par cette lentille, par cet espace-temps déformé. Donc vous voyez aussi la même galaxie ici. Donc c'est la même galaxie qui fait le tour ici par cette déformation gravitationnelle. Donc c'est ce qu'on a fait avec un des plus gros programmes du James Webb qui s'appelle GLIMS. Et donc ça, c'est un amas de galaxies observé avec le télescope Hubble, donc avant James Webb. Et maintenant, je vais vous montrer aussi le même amas observé avec James Webb. Donc le voici. Donc avec Hubble, avec James Webb. Donc je vous ai mis un QR code ici que vous pouvez scanner pour avoir une version zoomable de cette image. Vous pouvez zoomer sur toutes les petites structures de cet amas de galaxies. Donc vous voyez hein, tout autour, vous voyez les arcs gravitationnels hein, qui tournent autour. Vous voyez cette image complètement déformée. Et ça représente pour le moment l'image la plus profonde de l'univers distant. Donc c'est ici qu'on découvre les galaxies de plus faible luminosité dans l'univers primordial. Donc vous pouvez zoomer dessus hein, pour voir tous ces arcs gravitationnels hein, qui sont le fait de cette déformation de l'espace-temps, de galaxies très distantes. Vous voyez aussi des galaxies beaucoup plus brillantes, massives, avec des arcs pareils. Et vous voyez certains arcs ici de galaxies déformées qui sont très très distantes. Hein. On arrive encore à résoudre ces zones de formation d'étoiles dont des galaxies qui sont à 10 milliards d'années-lumière hein, grâce à cet effet loupe gravitationnel. Et on voit aussi beaucoup de petits points un peu partout sur cette image qui sont aussi quelquefois des galaxies très très distantes qui sont de très faible masse. Quand je dis très faible masse, pour vous donner une idée, c'est à peu près 3000 fois plus petite que la Voie lactée, que notre galaxie, mais observée quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc c'est vous dire le pouvoir de James Webb et des lentilles gravitationnelles. Et donc là où ça devient intéressant, maintenant avec ce principe de loupe qu'on rajoute au James Webb, c'est qu'on arrive à détecter des galaxies encore plus distantes, c'est-à-dire un redshift de 16, c'est-à-dire 250 millions d'années après le Big Bang. Donc on se rapproche de plus en plus. Et voici l'une des galaxies découvertes 250 millions d'années après le Big Bang, avec ces images-là. Donc on peut regarder ici, par exemple, ça c'est, le nombre, encore une fois, de galaxies attendues par les modèles avant le James Webb, et par les modèles maintenant développés après le James Webb aussi. Hein. Donc vous voyez tous les modèles ici qui prédisent un nombre donné de galaxies. Et ça, c'est le résultat qu'on vient d'observer avec ces galaxies-là. Et vous voyez qu'il est au-dessus de tous les modèles. Même les modèles post-James Webb ne prédisent pas autant de galaxies. Et là, on peut s'amuser en fait à regarder, c'est là où ça devient un peu dingue, c'est qu'on peut s'amuser à regarder, à comparer le nombre de galaxies qu'on découvre très tôt dans l'histoire de l'univers à la distribution de halos de matière noire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, le résultat de ces galaxies, c'est le point rouge ici, et la courbe noire ici, c'est la distribution de halos de matière noire qui tombe pile poil dessus. C'est exactement le nombre de halos de matière noire, on trouve le même nombre de galaxies, comme si tous les halos de matière noire arrivaient à former des galaxies à cette époque-là. Et en fait, on a aussi essayer de détecter des... Ça, parce que ça, c'est des galaxies très très faibles en luminosité, je vous l'ai dit. On s'est dit, c'est quand même bizarre qu'on découvre que des galaxies de très faible luminosité. Donc on a essayé de regarder toutes les images, toutes les données de James Webb pour détecter des galaxies plus brillantes. On découvre rien du tout. Donc ces points ici, c'est des non-détections. Donc en fait, c'est aussi compatible avec cette chute ici du nombre de halos de matière noire. Donc en fait, maintenant, pour détecter des galaxies primordiales, il faut absolument regarder des galaxies de faible luminosité, sinon vous n'avez aucune chance de détecter ces galaxies. Et on peut regarder aussi l'histoire de formation de ces galaxies. Donc elles se sont formées à peu près 230-240 millions d'années ici, après le Big Bang. Et si on applique une formation stellaire constante, comme je l'ai dit, donc ces galaxies vont former ces étoiles avec un taux constant, en fait, leur luminosité ici qu'on voit là, elle va augmenter, et en fait, va donner naissance à ces galaxies-là qu'on observe en fait actuellement plus tard. Et pour une efficacité de formation d'étoiles plus élevée, on va reproduire ces galaxies beaucoup plus brillantes ici. Donc, en fait, ce n'est pas si aberrant que ça qu'on observe ces galaxies très tôt dans l'histoire de l'univers, parce qu'elles vont être les progéniteurs en fait, des galaxies très brillantes qu'on observe plus tard. C'est juste qu'elles commencent avec des faibles luminosités, elles vont arriver, elles vont devenir très brillantes bien plus tard. Ensuite, un peu plus tard, justement, dont je parlais de ça tout à l'heure, on peut regarder encore le nombre, la distribution du nombre de ces galaxies en fonction de leur luminosité. Et cette fois-ci, vous voyez tous les points vides ici, bleus, les petits points bleus ici, c'est les observations précédentes qui s'attachaient plutôt aux galaxies brillantes. Donc avec cet effet de lentille gravitationnelle, on peut regarder aussi l'autre côté, ces galaxies représentatives de la population de 99% des galaxies. Et leur nombre, en fait, continue à augmenter. Donc c'est la première fois qu'on voit, en fait, ce nombre-là. C'est qu'on continue à voir des galaxies de faible masse, de faible luminosité, qui sont de plus en plus nombreuses très tôt dans l'histoire de l'univers. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et donc, en fait, ce qui est génial maintenant, c'est qu'on peut tester tous les modèles dont je vous ai parlé, parce qu'ils sont calibrés pour reproduire le nombre de galaxies brillantes, mais ils devraient aussi reproduire le nombre de galaxies de faible masse. Et donc, vous voyez en fait qu'il y a, on a des modèles ici, toutes les courbes grises ici, ce sont des modèles différents. Donc on a des modèles qui reproduisent ici les galaxies brillantes, mais qui n'arrivent pas à reproduire les galaxies de faible masse, et inversement, des modèles qui reproduisent très bien des galaxies de faible masse qui n'arrivent pas à reproduire des galaxies brillantes. Donc maintenant, le défi, c'est d'essayer de reproduire les deux, c'est d'essayer de changer toutes les recettes dont je vous parlais tout à l'heure dans les simulations numériques, et de les calibrer autrement à ces observations pour améliorer notre compréhension de cette formation des galaxies. Et donc, je vous ai montré ça tout à l'heure. Donc, c'est le taux de formation totale de l'univers en fonction du redshift, donc du temps, en se rapprochant du Big Bang ici. Donc ça, encore une fois, c'est les prédictions avant HST, et ça, c'est les observations. Donc vous voyez, on est toujours au-dessus, on forme toujours trop d'étoiles par rapport aux autres prédictions. Et maintenant, il y a tous ces modèles qui sont plus ou moins, qui marchent plus ou moins à certaines distances, à certaines périodes de l'univers, qui marchent beaucoup moins à d'autres périodes, qu'on doit aussi améliorer et calibrer pour reproduire ces points ici rouges que je vous montre. Donc je vais passer un petit peu, juste quelques exemples de ces modèles, pour vous donner une idée de la variété de modèles de scénarios qu'on essaye de mettre en place pour expliquer cette formation des premières galaxies. Donc le premier scénario, il a un lien avec cet équilibre entre la formation des étoiles et la rétroaction des étoiles dont je vous parlais tout à l'heure, qui va chauffer le gaz autour, qui va arrêter la formation d'étoiles. Donc à chaque fois que vous commencez à accréter du gaz, vous avez commencé à former des étoiles, ces étoiles vont émettre un rayonnement qui va chauffer le gaz autour, qui va stopper la formation d'étoiles. Donc il y a un équilibre très instable entre les deux, et très fin entre les deux. Donc si vous arrêtez la formation d'étoiles à chaque fois, vous allez avoir une efficacité de formation stellaire très réduite. Sauf qu'il y a un cas où vous allez former des étoiles tellement vite que la rétroaction n'a pas le temps d'arrêter la formation des étoiles. Et ce cas, c'est quand vous avez un gaz très, très, très dense d'hydrogène qui va former des étoiles très, très vite, beaucoup plus vite que le temps d'action de cette rétroaction. Donc ça, c'est l'un des modèles qui pourrait expliquer pourquoi on trouve des galaxies aussi brillantes, aussi massives, qui ont un taux de formation stellaire aussi élevé. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est lié à la façon avec laquelle les galaxies forment leurs étoiles, ce qu'on appelle l'histoire de formation stellaire. Donc je vous montre un exemple ici, c'est deux galaxies simulées. Ici, c'est le taux de formation de ces étoiles, hein, combien d'étoiles on forme par an, en fonction du temps. Donc 400 millions d'années jusqu'à zéro, jusqu'au temps d'observation, à l'époque d'observation de cette galaxie. Et donc vous voyez ici, il y a deux galaxies, c'est une galaxie de 10 puissance 9 masse solaire, donc 1 milliard de masse solaire, et ici 10 millions de masse solaire, en bleu. Donc deux galaxies très très différentes. Hein. Et elles vont former leurs étoiles de façon très différente. Vous voyez les fluctuations du taux de formation d'étoiles en fonction du temps. Donc beaucoup de fluctuations, peu de fluctuations. Mais ici, vous allez voir, à l'époque d'observation, on va mesurer un taux de formation d'étoiles équivalent. Donc on pourrait se dire que ces deux galaxies forment, ont une efficacité de formation stellaire similaire, mais en fait pas du tout. Si on remonte à l'histoire de formation de cette galaxie, eh bien, on voit que les fluctuations sont complètement différentes. Donc il se peut qu'au moment d'observation, on observe seulement des galaxies au pic de leur taux de formation d'étoiles, donc au pic de leur luminosité, qui n'est pas représentatif du reste de la vie de la galaxie. Donc ça pourrait expliquer pourquoi on observe ces galaxies très très brillantes à cette époque-là. Et bien sûr, ça c'est un domaine très en vogue maintenant, donc on a certaines estimations de cette variabilité de la formation d'étoiles. Ici je vous montre tous les modèles à peu près qui essaient de reproduire cette variabilité. Donc ici c'est la variabilité, hein, le changement en luminosité de ces galaxies, et en fonction du temps encore, du redshift. Hein. Et en fait, pour reproduire ces observations, on va dire qu'il faut à peu près une valeur de 2 ici, 2 magnitudes, 2. Vous voyez que presque tous les modèles donnent une valeur beaucoup plus petite que 2, hein. C'est moins de 1, autour de 1 ou moins. Donc pour l'instant, on n'arrive pas encore à expliquer ces galaxies brillantes avec cette variation de luminosité. Donc il reste du boulot de ce côté-là, de ce côté de ce scénario-là en tout cas. Dernière chose peut-être, dans ces scénarios, vous rappelez la première observation de James Webb qui a cassé l'univers, parce que les galaxies étaient trop massives, et ben, il y a quelques mois, on s'est rendu compte qu'avec des observations complémentaires, que beaucoup de ces galaxies en fait abritaient des trous noirs supermassifs en leur centre. Donc ça veut dire que la masse qu'on a donnée plutôt aux étoiles, en fait la plupart de cette masse-là était liée aux trous noirs, et non pas à la masse des étoiles de ces galaxies-là. Donc avec des trous noirs, évidemment, on explique très bien la masse de ces galaxies. Mais il fallait beaucoup, beaucoup plus d'observations complémentaires pour faire la différence entre une galaxie et un trou noir. Donc ce trou noir supermassif va avoir un disque d'accrétion de matière autour du trou noir, très, très lumineux. Donc c'est ce qu'on observe, en fait, et on prend ça pour de la masse stellaire. En fait, ce n'est pas de la masse stellaire, mais de la masse des trous noirs. Donc évidemment, ça, on ne peut pas le généraliser à tout le reste des observations dont je vous ai parlé, parce que le reste des observations, on sait maintenant que ce sont vraiment des galaxies de la masse stellaire, donc le problème persiste toujours. Une autre façon aussi de changer cette luminosité des galaxies primordiales, c'est de se dire qu'on peut changer la nature même des étoiles qu'elles abritent. Donc, dans les modèles aussi de formation des galaxies, on a une distribution d'étoiles en fonction de leur masse. Donc, on a exactement un nombre donné de petites étoiles et un nombre donné de grosses étoiles. Mais cette distribution, on peut la changer. On peut mettre beaucoup plus d'étoiles massives. Des étoiles massives, c'est-à-dire que c'est des étoiles 100 fois, 1000 fois plus grandes que le Soleil, plus massives que le Soleil. Donc, c'est des étoiles extrêmement massives qui ont l'avantage d'être beaucoup plus lumineuses que les autres étoiles. Donc on peut expliquer aussi la luminosité très élevée de ces galaxies en changeant en fait la nature de leur population stellaire. Et donc ces étoiles aussi, on pense que les premières étoiles d'ailleurs qui apparaissent dans l'univers, des potrons minés, ce sont ce type d'étoiles, hein, très massives. Alors les signatures de ces étoiles sont très simples. Donc ça, c'est le tableau périodique des éléments. C'est tous les éléments qu'on connaît maintenant, sur Terre par exemple, ou dans l'univers évolué. Mais À l'époque de formation des premières étoiles, des étoiles primordiales, on n'avait que ça. On avait principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Donc si on cherche les étoiles primordiales, on va chercher des signatures que de l'hydrogène et de l'hélium dans ces étoiles. Donc voici à quoi ressemble à peu près un spectre d'étoiles. Donc vous voyez des signatures ici, des pics hein, d'émission de l'hydrogène, c'est des signatures d'hydrogène en rouge, et des signatures d'hélium en violet ici. Et ici, on s'attend à voir aussi des signatures atomiques de l'oxygène. Eh bien, il ne faudrait pas détecter des signatures d'oxygène pour espérer détecter ces premières étoiles. Donc ça, c'est un spectre typique à peu près d'une étoile ou d'une galaxie primordiale. Et ça, c'est vraiment aussi les étoiles de première génération, les étoiles primordiales. Ça a été théorisé pendant des décennies. On n'a jamais encore observé ces étoiles de première génération. C'est aussi un défi très important dans l'astronomie observationnelle. Mais peut-être qu'on vient de découvrir pour la première fois des étoiles de première génération. Encore une fois, c'est un amas lentilles donc gravitationnel qu'on a observé. Donc, je ne sais pas si on observe ici, on a un zoom. On a deux galaxies ici, deux points ici. Donc c'est la même galaxie qui a des images multiples à cause de cet effet loupe. Et on a obtenu un spectre de cette minuscule galaxie très distante. Et voici le spectre obtenu. Et donc ça ressemble vachement au spectre typique des étoiles de première génération, c'est-à-dire qu'on observe une signature très intense d'hydrogène ici et l'absence de signature d'oxygène. Donc on a peut-être observé pour la première fois des étoiles de première génération, et ça c'est fondamental parce qu'on pourra tester pour la première fois les conditions de formation de ces étoiles et les théories de formation des étoiles en général et des galaxies, hein. Donc, ce qui m'amène maintenant à ma deuxième partie, je ne sais pas combien de temps j'ai, la deuxième partie qui dure moins longtemps quand même. Ça va? Ok. 10 minutes. 10 minutes, ça va. Je vais accélérer. Donc, la deuxième partie très courte dont je vais parler, c'est aussi l'époque de réionisation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les premières sources dans l'univers se forment, elles vont affecter tout le contenu en hydrogène, en gaz de tout l'univers. Et tout l'univers va faire cette transition entre un état complètement opaque à un état complètement ionisé. Et ça, on pense que c'est les premières galaxies qui ont fait ça aussi, cette transition. Donc cette transition est intimement liée aussi aux premières sources de lumière qui se forment dans l'univers. Et donc pour observer ça, donc ça c'est à peu près l'équation de la réionisation, donc c'est un équilibre entre un rayonnement qui ionise et une recombinaison, les atomes d'hydrogène qui sont dissociés peuvent se recombiner naturellement aussi. Donc c'est une compétition entre les deux processus. Donc nous, ce qu'on veut mesurer, c'est ce taux d'ionisation, cette émission, ce rayonnement total qui est émis par les galaxies, et pour me voir si c'est suffisant pour rayoniser l'univers. Donc on essaie de mesurer ça et arriver à peu près à ce seuil-là où les galaxies peuvent rayoniser l'univers. Donc encore une fois, on va utiliser notre outil préféré, c'est les lentilles gravitationnelles. On va observer un autre amas encore de galaxies qui est beaucoup plus grand ici. On a trois structures ici que vous voyez ici d'amas. Donc on a à peu près trois loupes gravitationnelles avec le James Webb. Et donc avec ça, pour la première fois, on a réussi à mesurer le pouvoir ionisant de ces galaxies à l'époque de la réionisation, hein, 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc voici le spectre de ces galaxies. Et avec ça, pour simplifier, on réussit à mesurer pour la première fois ce facteur-là. Donc ça, c'est l'efficacité d'ionisation des galaxies. C'est la première fois qu'on le mesure dans ces galaxies à l'époque de réionisation. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on arrivait à mesurer le nombre de ces galaxies de faible masse. Et maintenant, on mesure l'efficacité d'ionisation de ces galaxies de faible masse. Maintenant, on peut combiner les deux. Et ça, ça vous donne l'émission totale de ces galaxies à l'époque de la réionisation. Et il se passe quoi ? Ben, on trouve que cette émission ionisante, en fait, elle dépasse le seuil requis pour la réionisation. En fait, juste avec les galaxies de faible masse, on peut réioniser l'univers. Les galaxies sont capables, en fait, de réioniser l'univers. Et avec ça, on crée un autre problème, en fait, c'est qu'on a trop de rayonnement ionisant. On a trop de rayonnement ionisant parce qu'on va réioniser l'univers trop tôt. Trop tôt par rapport à d'autres observations. Donc ça, si on prend cette ionisation dont je vous ai parlé, Ici, c'est l'état d'ionisation de tout l'univers. Ici, à 1, ça veut dire qu'on a 100% de gaz neutre, et à 0, on a 0% de gaz neutre, tout est ionisé. Et on voit ici comment on passe ici d'un univers complètement neutre, opaque, et un univers complètement ionisé ici, 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc ça, c'est les modèles en noir. C'est les points que vous voyez ici, c'est différentes mesures de l'état même de l'univers. Donc on voit comment est l'état d'ionisation de l'univers. Et l'observation des galaxies, elle nous donne ça, la courbe bleue. Courbe bleue, c'est-à-dire qu'on réussit à réioniser l'univers très très tôt, beaucoup plus tôt que les observations ici, 1 milliard d'années après le Big Bang. Il y a une vraie tension entre les deux qu'on n'arrive toujours pas à expliquer pour l'instant. Donc on peut expliquer ça par en diminuant l'efficacité d'ionisation des galaxies, ça c'est très compliqué. On peut aussi changer les ingrédients dans les modèles de réionisation. Il y a beaucoup de recettes pour essayer de diminuer cette tension. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule observation qui mène à cette tension. On a d'autres observations qui donnent la même chose. L'une d'entre elles, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on observe trop de galaxies trop tôt. Trop de galaxies trop tôt, ça veut dire qu'elles vont aussi ioniser l'univers trop tôt. Donc ça participe encore au problème, à cette tension. Et ensuite, on a une observation assez remarquable récemment, c'est qu'on a observé une signature de l'hydrogène dans une galaxie à redshift 13, c'est-à-dire 300 à 400 millions d'années après le Big Bang, beaucoup plus tôt que l'époque de réionisation. Et la seule façon d'observer cette signature de l'hydrogène qui s'appelle Lyman alpha, c'est d'avoir un univers ionisé. Si vous avez du gaz d'hydrogène, ce rayonnement est tout de suite absorbé par le gaz d'hydrogène. La seule façon de l'observer, c'est d'avoir un gaz ionisé. Mais beaucoup trop tôt, du coup, pour nos modèles de réionisation. Donc ce qui se passe, c'est après ce schéma-là, si vous avez une émission d'une galaxie dans un milieu complètement neutre en blanc ici, ici en noir, c'est quand l'univers est devenu complètement ionisé et transparent. Donc vous avez des petites galaxies qui vont se former dans ces régions opaques, et donc en bleu, c'est votre émission Lyman alpha qui va être tout de suite absorbée par le gaz neutre. Mais si vous avez une grosse région ici, une grande région ionisée autour de cette galaxie, et bien en fait, cette lumière Lyman alpha de l'hydrogène va avoir assez de temps pour se décaler vers le rouge. On a parlé de décalage vers le rouge tout à l'heure à cause de l'expansion de l'univers. Si cette zone ionisée est assez grande, la lumière Lyman alpha aura assez de temps pour se décaler vers le rouge et ne va pas être absorbée par le gaz d'hydrogène parce qu'elle la verra, le gaz verra cette lumière décalée. Donc il laissera passer cette lumière, cette signature d'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on peut la détecter. Donc je vous disais, la seule façon d'avoir cette lumière, c'est d'avoir une zone assez énorme de l'univers déjà ionisée très très tôt. Donc ça rajoute encore à la tension dont je vous ai parlé. Donc voilà, j'essaie maintenant de résumer un petit peu ce que je vous ai dit dans ce slide. Ça va ? Donc c'est un peu le statut actuel des choses maintenant, c'est le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité dont je vous ai parlé. C'est ce qu'on mesure à peu près. Donc en ce moment, on essaie de mesurer ce qui se passe pour les faibles luminosités, pour les petites galaxies. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mesurer le nombre exact de ces galaxies ? C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est la mesure du nombre de ces petites galaxies très tôt dans l'histoire de l'univers. Si on continue à observer beaucoup plus de galaxies de faible masse, on va accentuer le problème de la réionisation, c'est-à-dire vous rajoutez encore plus de rayonnement pour réioniser encore plus tôt cet univers dont je parlais. Donc il faut à peu près l'aplatir, et quand vous faites que l'aplatir, vous allez produire trop de galaxies dans l'univers local. Parce que maintenant, dans l'univers local, l'univers actuel qu'on connaît, on sait mesurer le nombre de galaxies autour de nous. Et si, dans l'univers précoce, vous avez trop de galaxies, vous allez prédire trop de galaxies qu'on observe dans l'univers local. Donc ça ne marche pas, il y a un problème. Donc il faut casser cette courbe dont je vous parlais, il faut arrêter le nombre de galaxies vers les faibles masses. Et si vous arrêtez les galaxies ici de faible masse, la formation dans ces galaxies de faible masse, ça veut dire que vous arrêtez cette efficacité de formation stellaire dont je vous parlais, dans des halos de matière noire de 10 puissance 9 masse solaire. Et ça, on ne sait pas faire. Il n'y a aucune simulation, aucune théorie qui sait faire ça, arrêter la formation stellaire dans des galaxies aussi massives encore. Donc vous allez avoir un problème dans tous les scénarios dont je vous ai parlé ici. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est là où on va arriver bientôt, c'est mesurer exactement le nombre de ces galaxies de faible masse. Et pour finir encore, c'est le nombre de galaxies de faible masse va aussi vous donner une contrainte très importante sur les modèles de matière noire. En fait, si vous avez un modèle de matière noire froide ou de matière noire chaude, vous allez prédire un nombre différent de galaxies de faible masse. Parce qu'ici, vous avez de la matière noire froide, vous allez former beaucoup de halos de petite masse, beaucoup plus que la matière noire chaude ici. Donc si vous mesurez un nombre de galaxies très élevé ici, ben, ça va réfuter plein de modèles de matière noire chaude. Donc là, c'est très important aussi pour les modèles, pour tester les modèles de matière noire. Donc voilà, je finis juste avec ça. Donc ça, c'est les perspectives. Donc ce n'est pas fini. Hein. On a beaucoup, beaucoup de programmes encore avec le James Webb. Donc on a ces deux programmes aussi très importants qui ont été acceptés dans ce cycle-là. Donc c'est le programme Vénus ici. C'est au lieu d'observer une lentille ou deux lentilles gravitationnelles, on va observer 60 lentilles gravitationnelles. Donc à peu près 300 heures d'observation avec le James Webb, avec toutes ces lentilles. Et on a un autre programme aussi avec 300 heures d'observation de James Webb, encore une fois avec Minerva, où là on va utiliser tous les filtres, toutes les bandes d'observation de la caméra NIRCam sur James Webb pour essayer de détecter les galaxies les plus lointaines. Donc voilà, je vais finir juste avec ça. Donc j'espère que je vous ai montré un petit peu comment James Webb, avec les lentilles gravitationnelles, on arrive vraiment à remettre en question tous les modèles de formation des galaxies, à détecter des galaxies les plus distantes, mais aussi, surtout, à détecter des galaxies de très faible masse qui, vous l'avez vu, sont très importantes, fondamentales pour comprendre la formation des galaxies ou les modèles de matière noire, mais aussi la réionisation de l'univers dont je vous ai parlé. Et on a aussi, d'ailleurs, le satellite Euclide qui va nous permettre aussi de comprendre cette époque de réionisation, donc Euclide dans lequel l'IAP est très impliqué. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre présentation. Merci de m'avoir écouté. C'était allumé.
Merci beaucoup, Hakim. On va prendre quelques petites questions, mais petites, parce qu'on a faim, je crois. Et c'est une conférence semi-grand public, donc toutes les questions sont les bienvenues.
Merci. C'était formidable. J'ai juste une petite question. À un moment, tu dis qu'une partie de ce qu'on prenait de la matière baryonique, enfin des galaxies, était des trous noirs supermassifs, donc c'est bon. Mais du coup, j'imagine qu'il y a des questions sur la formation de ces trous noirs supermassifs aussi massifs, aussitôt. Est-ce que tu peux en dire quelque
bien
chose?
Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un autre séminaire encore sur les trous noirs. Mais en fait, c'est... Le fait qu'on observe aussi avec le James Webb dans l'infrarouge, ça nous a permis aussi de découvrir toute une autre population de trous noirs qui était un peu cachée auparavant. Et là, ce qu'on trouve, c'est que la masse, par exemple, de ces trous noirs par rapport à la masse de la galaxie qui les abrite est beaucoup trop haute, beaucoup plus élevée que ce qu'on observe dans l'univers local. Et ensuite, le nombre aussi de ces trous noirs, en fonction de leur masse, par exemple, est plus élevé aussi que dans les modèles de formation des trous noirs. Donc on a aussi quelques problèmes pour reproduire la formation de ces trous noirs tout à fait par rapport à nos modèles. Oui.
Merci pour ton super présentation. En fait, j'avais une question peut-être idiote, mais tu peux m'éclairer. Tu as parlé à la fin de ta présentation de halo de matière noire froid et chaud. Tu peux expliquer ça et tu peux expliquer comment on peut observer ça?
Alors, on n'observe pas la matière noire. Donc, les courbes ici, en fait, c'est pour différents modèles de matière noire, la matière froide va avoir tendance naturellement à former beaucoup de petits halos. En fait, si vous avez de la matière chaude, la matière noire ne va pas s'agglomérer assez pour former ces petits halos de matière noire. Okay ? Donc ici, si on observe un nombre très élevé de galaxies, ça veut dire forcément que vous avez des halos de matière noire sous-jacents. Donc avec les galaxies, ce qu'on observe, en gros, c'est une limite inférieure au nombre de halos de matière noire. Donc si on observe un nombre donné de galaxies, ça veut dire qu'on a au moins ce nombre-là de halos de matière noire, cette distribution de halos de matière noire. Ça nous donne une limite inférieure, et si elle est dans le bleu ici, par exemple, ce sera difficile de mettre des modèles de matière noire chaude là-dessus. Donc en tout cas, ça va complètement réfuter les modèles de matière chaude.
Ouais. Merci. À moins qu'il y ait une question très très urgente, je vous propose que vous posiez vos questions à Hakim pendant le pot. Voilà. Encore merci pour cette présentation.
Merci.
Waouh.
Merci.